Merci Luc, parce que ta façon de me présenter m'arrange bien, parce que je me trouve dans une situation que j'ai jamais vécue depuis que je porte le même message, ça fait 6 ans, ça fait 60 fois peut-être que je porte le même enseignement, mais je me trouve dans une drôle de situation parce que j'en ai apporté une première partie il y a quelques mois, c'était en mars je crois, certains y étaient, beaucoup n'y étaient pas. Alors là je vais être obligé de faire... monter dans un train en marche, ça c'est pas possible, sinon on se casse la figure. Donc je vais être obligé de reprendre un peu. Alors je suis désolé pour ceux qui m'ont entendu l'autre fois, mais il a dit que j'étais pédagogue, alors nous allons faire des révisions. Mais je pense que cette situation est voulue du Seigneur. Parce que je crois que ici le Seigneur veut enfoncer le clou, veut implanter des choses. Je sais ce que j'ai dit l'autre fois, il en est resté beaucoup, mais il y a une partie qui s'est évaporée, ça c'est évident. Alors nous allons refixer. Donc pour aller plus loin, je vais repartir, je vais redire les mêmes choses au départ. Je suis désolé pour ceux qui étaient déjà là. Mais avant de vraiment commencer, moi je voudrais juste vous poser quelques questions. Vous n'allez pas me donner la réponse. C'est juste pour titiller votre réflexion, c'est des questions faciles. Alors, je demande à chacun de vous de réfléchir, et ce n'est pas bien compliqué, qu'est-ce qu'on appelle la première ou l'ancienne alliance? Qu'est-ce que l'ancienne alliance? Vous avez des idées quand même. Et, autre question, c'est avec qui Dieu a-t-il fait cette première ou cette ancienne alliance? Je pense que vous avez des idées. Autre question, qu'est-ce que la nouvelle alliance? Et avec qui Dieu a-t-il fait cette nouvelle alliance? Voilà les questions que je pose. Voilà. Alors maintenant, je commence vraiment, parce que j'aime commencer ainsi, dire à chacun de vous paix et bénédiction dans le nom de Jésus. J'aime commencer comme ça parce que ça établit une relation en Christ avec l'auditoire. Et puis, est-ce que vous êtes des gens qui aimaient le relationnel, qui aimaient communiquer, qui aimaient partager, échanger avec les autres, qui aimaient établir des solidarités, vous harmoniser avec les autres, vivre en bonne relation? Est-ce que vous êtes de ces gens-là? Oui. Eh bien, écoutez, vous savez que là-dessus, vous êtes rejoints par quelqu'un d'extrêmement important, quelqu'un de très haut placé, c'est Dieu lui-même. Parce que, j'insiste là-dessus, il faudrait aller chercher peut-être un marteau, mais Dieu, notre Dieu, est un Dieu de relation, de communication et de bonne communication. Alors on pourrait dire c'est un Dieu de communion. Le mot communion, ce n'est pas que du langage religieux. À l'emploi, par exemple, vous avez un chanteur de flamenco, derrière il y a son guitariste, et on peut dire il y a une communion entre le guitariste et le chanteur. Au concours hippique, quand vous avez un excellent cavalier qui conduit ou qui est porté par un excellent cheval, on dit sur l'obstacle qu'il y a vraiment une communion entre le cavalier et le cheval. Vous voyez dans quel sens je veux dire le mot communion. Alors Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu fermes ici, voilà, voilà, je parle d'ici, pour que les distraits puissent m'écouter. Voilà, on laisse la fenêtre là-bas. Oui, parce que c'est au moment où je vais dire les choses les plus importantes, qu'il y a toujours dans l'auditoire des petites distractions. Un cintre qui tombe, une feuille qui s'envole. Alors là, je ne me laisse pas piéger. Dieu est un Dieu de communion. Et il est communion en lui-même. La Bible dit « Dieu est amour ». Et l'amour, ce n'est pas un truc qui est mobile, ça bouge. Et en Dieu, il y a une circulation de l'amour. Entre qui et qui en Dieu? Entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Mais l'amour, ça ne reste pas en vase clos. Ça s'exprime. Alors Dieu, dans son amour, eh bien, va exprimer cet amour et il va le projeter hors de lui-même. Et alors, il y a besoin que cet amour arrive quelque part. Où arrive l'amour de Dieu? Eh bien, sur la création. Dieu crée. Et je pense que vous les... Où sont les plus jeunes, là? Je vois que des jeunes, là, aujourd'hui, oui. Est-ce que vous connaissez le premier verset de la Bible? Qui peut me le dire? Capital. Oui.
Au commencement, la terre était vide. Dieu créé les cieux.
Les cieux et puis pas
et
que ça.
Et la terre.
Ah voilà. Eh bien, c'est bien, mon garçon. Ça, tout le monde devrait le savoir. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire les cieux, ça veut dire aussi les réalités non visibles pour nous. Le domaine des anges, par exemple. Et puis la terre, c'est notre univers que nous pouvons voir ou mesurer scientifiquement. Eh bien, entre les deux parties de la création, il y a une communion, il y a des correspondances. Et puis, dans l'univers visible, eh bien, regardez, l'univers tient debout. Ce n'est pas la pagaille dans les étoiles. Et puis, dans notre planète, il y a un équilibre écologique que Dieu a voulu imprimer. Et alors, donc, l'amour de Dieu part de Dieu et tape en quelque sorte sur la création. Et où est-ce que l'amour de Dieu tape sur la création? À quel endroit? Quel est le point de jonction entre l'amour de Dieu et cette création? Eh bien, ne réfléchissez pas longtemps. C'est vous, monsieur, c'est vous, madame, c'est chacun de nous. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Et nous sommes les réceptacles de l'amour de Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu dans toute la création. Donc, c'est dire la dignité que nous avons. Hein? Je vois des enfants qui sont là, c'est dire l'importance que vous avez aux yeux de Dieu. Bon, alors Dieu est un Dieu de communion avec sa création, et puis Dieu crée l'homme. Alors, quelle est la première personne que Dieu a créée? Est-ce que les petits pourraient me donner vite le nom?
L'animal.
Ah oui, mais l'animal, ce n'est pas une personne. Mais il a créé l'animal, tu as raison.
Adam.
C'est bien, tu lis ta Bible, toi. Hein? Adam. Dieu crée Adam et... Qu'est-ce qu'il y a? Mais pas si vite. Attends. Dieu crée Adam et Adam, le premier homme, est un lieu de communion. Communion entre l'esprit, entre l'âme et entre le corps. Mais Adam, il est tout seul. Alors, où il est? Viens vite le dire ici, au micro. Cours, parce que mon temps est compté. Alors, Adam est tout seul. Dieu ne le laisse pas tout seul. Qu'est-ce qu'il crée?
Ève.
Elle est merveilleuse, Ève. Hein? Pourquoi il crée Ève?
Pour que l'homme
ne soit pas tout seul. Ben, merci. Hein? Toi aussi, tu lis la Bible. À Ève, pour que l'homme ne soit pas tout seul, parce que l'homme doit être en communion, et Dieu veut la communion dans le couple. Et le couple, il va avoir des enfants. J'en vois plein ici. Et les enfants, quand vous serez grands, quand vous serez vous allez devenir des papas et des mamans, et qu'est-ce que vous aurez?
Puisque
vous aurez des enfants, et un jour les enfants de vos enfants auront des enfants, etc. Et Dieu est un Dieu de communion, de génération en génération. Nous héritons physiquement, psychologiquement, spirituellement. Il y a une communion voulue par Dieu de génération en génération. C'est pour ça, c'est très bien que ce matin, il y ait les enfants. Voilà, et les papis et les mamies aussi, s'il y en a. Bon, alors, communion dans le couple de génération, puis communion dans la famille. Mais la famille ne doit pas rester bloquée sur elle-même. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que Dieu interdit les relations, on va dire, sexuelles à l'intérieur de la famille? Une des raisons, me semble-t-il, une parmi d'autres, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut pas... Dieu veut l'unité de la famille, la communion de la famille, mais on ne peut pas rester bloqué dans la famille. On est obligé d'aller chercher mari ou femme vers une autre famille. Parce que Dieu ne veut pas de sectarisme, on est enfermé dans ses remparts. Il faut s'ouvrir, il faut s'élargir. Donc on va chercher conjoint dans une autre famille, et les familles forment les tribus forment les peuples, les nations, et Dieu veut la communion entre toutes les composantes de la famille humaine. Alors, si on était en classe, on prendrait une craie au tableau, et je dessinerais un trait là, à la verticale. Dieu veut une communion à la verticale entre lui, le Créateur, et puis chacun de nous. Et puis je tirerai un trait à l'horizontale. Dieu veut une communion entre toutes les composantes de la famille humaine. C'est beau. C'est beau. Mais, qu'est-ce qui s'est passé de terrible? Et on le lit au début de notre Bible. Est-ce que... Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont péché.
Ils ont?
L'homme a péché.
Oui, l'homme et la femme, ils ont péché, en effet. Et vous savez ce qui s'est passé? En Éden, l'homme et la femme ont rompu la relation avec Dieu dans l'idée de devenir leur propre Dieu. Ça, là, ils ont écouté les conseils du serpent. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous voyez, j'ai le trait imaginaire que j'ai fait au tableau noir, là, la relation verticale, je prends l'éponge et en plein milieu, crac, je coupe ce trait, la relation entre l'humanité et Dieu est rompue. Mais alors c'est patatrac, comme on appelle ce jeu de construction là, que vous avez à l'école ou à la maison où vous mettez toutes les... Oui, comment ça s'appelle?
Les caplas.
Le?
Les caplas.
Des caplas, alors tu sais, ça monte. Et puis si jamais à un moment donné, en bas, on donne un coup sec, patatrac, tout s'effondre. Et que se passe-t-il? C'est l'effondrement de la communion, même sur le plan, on va dire, horizontal. Des difficultés dans le couple, je ne sais pas ici si nous avons des couples mariés, mais les difficultés dans le couple, non mais ça existe. C'est que nous, avec mon épouse, on est mariés depuis 40 ans, alléluia, mais on peut témoigner, ça existe. Difficultés dans le couple, dans les générations, hein? Je ne sais pas s'il y a des 13-14 ans, levez la main par ici, les 13-14, 15 ans, là, les ados. Voilà. Alors, je ne parle pas pour vous, vous êtes exceptionnels, mais généralement, à l'âge de 13-14 ans, on est dans la crise d'adolescence. Je l'ai été, hein. Les parents, ha, voilà. Bon, eh bien, il y a quelque chose de normal dans la crise d'adolescence, il ne faut pas croire. Mais des fois, il y a un surcroît de conflits qui viennent de cette rupture de communion. Et puis, dans les familles, nous, dans le Midi, c'est, vous savez, le nombre de familles qui ont des problèmes, voilà, c'est incroyable. Et puis aussi, entre les nations, ben, c'est toutes les guerres. Et plus que ça aussi, la rupture de communion entre l'homme et la création. Parce que vous savez que Dieu avait demandé à Adam et à Ève de cultiver la création, c'est-à-dire de prendre cette création et de la porter à son meilleur. L'homme était lié à la nature pour le meilleur. Malheureusement, avec le péché, c'est pour le pire et c'est toute la pollution qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Alors voilà la triste situation. Si j'insiste lourdement là-dessus, c'est pour pouvoir aller plus loin. Si vous étiez Dieu et que vous voyez la situation, l'homme a péché contre vous, la communion est cassée, tout est par terre, qu'est-ce que vous feriez? Si vous étiez Dieu, personne ne va oser me le dire. Oui, toi?
J'essaierai de la réparer.
Ah, tu as un grand cœur. Oui, moi, tel que je suis charnellement, j'aurais dit ben, qu'ils restent dans leur fumier. Je ne m'en occupe plus. Mais, voilà, mais Dieu, lui, c'est un Dieu d'amour. Et l'amour, 1 Corinthiens 13, il pardonne tout, etc., etc. Donc, redis-le.
J'essaierai de réparer la terre.
Voilà, Dieu va essayer de réparer la communion, la communication. Il va rétablir la communion. Alors, comment Dieu va-t-il s'y prendre? Dieu conçoit une stratégie. Alors, on va voir la stratégie. Si vous n'êtes pas d'accord avec la stratégie que le Seigneur employait et que nous lisons dans la parole, écoutez, moi je vous conseille, quand vous serez là-haut, vous direz au Seigneur, mais pourquoi tu as employé cette stratégie? Il vous répondra. Toujours que le Seigneur a employé une stratégie. Est-ce que vous voulez bien la connaître, cette stratégie? Non? On s'en fout? C'est indifférent? Ben oui, mais vous avez, non mais attendez, vous avez intérêt à bien la connaître, parce que vous comprenez bien que dans le moment où on est de l'histoire de l'humanité, nous allons vivre des temps de turbulence. Ça ne va pas être facile. Et pour beaucoup de chrétiens dans le monde, ce n'est pas facile du tout, déjà depuis des décennies. Mais pour nous et pour la société, nous rentrons dans des temps qui ne vont pas être faciles du tout. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la télé pour vous le montrer ou de lire le journal quand même. Alors si nous n'adhérons pas à la stratégie de Dieu, eh bien spirituellement, on va être vraiment blackboulé. Donc on a intérêt à bien connaître la stratégie de Dieu. Alors pour rétablir la communion, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a décidé d'utiliser un peuple sur lequel il va appuyer son projet qu'on appelle un projet de rédemption ou de salut, on va dire projet de rattrapage de la sauce. Est-ce que vous voyez? Alors, je vous pose une question. Quel peuple Dieu a-t-il choisi? Je dis bien, quel peuple Dieu a-t-il choisi pour mener son projet de rédemption? Ah, alors attends, qui c'est qui a ré... Alors, les deux. Toi, tu dis?
Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël.
Sept, oui?
Le peuple d'Israël.
Trois, les trois sont d'accord. Vous avez bien répondu. Attention, les enfants, écoutez bien. Vous avez à la fois bien répondu et vous avez mal répondu. Parce que j'étais coquin, je vous ai tendu un piège. Vous avez bien répondu, oui, il est question du peuple d'Israël. Savez-vous comment on l'appelle aussi, le peuple d'Israël? Hein? Oui. Savez-vous comment on l'appelle aussi, le peuple d'Israël?
La tribu de Juda.
Ça, c'est une partie. Alors, le peuple d'Israël, on l'appelle aussi dans la Bible et puis dans la vie, on l'appelle le peuple juif. On l'appelle aussi le peuple hébreu. Et voilà, le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Voilà. Alors, c'est bien, vous avez bien répondu. Mais je vous ai dit, mais à un moment donné, vous avez quand même mal répondu. Est-ce que vous avez entendu la question que j'ai posée à nous tous? Mais eux, ils ont répondu. Ils ont eu le courage de répondre. Eh bien, c'est que je redis, quel peuple Dieu a-t-il choisi? Eh oui, elle me répond non, parce qu'à l'autre fois, elle m'a entendu parler l'autre jour. C'est bien, elle a bien retenu. Dieu, écoutez bien ça, pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois. Dieu n'a pas choisi un peuple parmi tous les peuples qu'il avait devant lui, comme s'il était là-haut, et puis il voit des Esquimaux, il voit des Celtes, il voit des Incas, il voit des Chinois, et puis il dit, voilà, lequel on va prendre? Tiens, là-bas, les Israélites, les Juifs, là, ils n'ont pas l'air si mal que ça, ils ont l'air assez spirituels, je les choisis eux, ce sera le peuple élu. C'est pas ça du tout, les amis. Dieu n'a pas choisi un peuple qui existait, Dieu a choisi d'appeler à l'existence un peuple qui jusque-là n'existait pas. Eh oui, et ça c'est très important. Alors bien sûr, on dit Dieu a le peuple élu, mais Ésaïe 40 dit Dieu le créateur d'Israël. Et effectivement, comment les choses ont-elles commencé? Quel est le premier? Est-ce que vous le savez là? Avec qui Dieu a commencé? Eh bien, Dieu a appelé un homme. Abraham et sa femme, alors sa femme s'appelait
Sarah.
Sarah, merci. Abraham et Sarah, et à partir de là, et de leurs descendants, Isaac, puis Jacob, et puis les enfants de leurs enfants, petit à petit, Dieu s'est constitué un peuple. Alors on va essayer de voir pourquoi. Mais moi, il me faudrait un comparse là. Est-ce que tu accepterais de venir? Je ne sais plus son prénom, David ou... Toi, oui, toi. Toi, viens et suis-moi. Voilà. Jean-Daniel. Samuel? Bon, mais qu'importe, il a un prénom biblique, alors on s'en tire toujours. Bon, alors, écoute-moi. Tu vas représenter à toi tout seul ce peuple d'Israël que Dieu a suscité à partir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et tout ça. Et Dieu t'a façonné petit à petit, petit à petit. Sais-tu pourquoi? Ah, il n'est pas conscient de son extraordinaire vocation. Eh bien, Dieu t'a appelé parce que du sein du peuple que tu représentes, dans les générations à venir, à un moment donné, va se lever celui qui sera la parole qui va devenir chair. Qui c'est la parole devenir chair? Jésus ou Yeshua. Et c'est lui qui va rétablir la communion entre Dieu et l'humanité. C'est quand même pas rien. Et puis à partir de toi, Dieu va recréer une communauté humaine, un lieu de communion pour petit à petit rétablir même la communion à l'horizontale entre toutes les composantes de la famille humaine. Mais bon, là on creusera un peu après. Alors toi, peuple d'Israël, eh bien sache que Dieu te fait le récipiendaire, présente tes mains, voilà, le récipiendaire exclusif de sa révélation. C'est vraiment au peuple d'Israël que Dieu se révèle. Peut-être y a-t-il des petites bribes ici ou là, mais c'est vraiment au peuple d'Israël et à lui seul que Dieu se révèle. Mais pas pour que ce peuple d'Israël s'enferme avec sa révélation, mais que pour que toi, peuple d'Israël, tu sois le phare de cette révélation en direction de tous les autres peuples. Eh oui, je vous pose une question sérieuse. Est-ce qu'un jour dans votre vie, vous avez pris 3 minutes dans votre chambre, dans le secret, pour remercier le Seigneur d'avoir créé, d'avoir appelé à l'existence le peuple d'Israël? Peut-être vous ne l'avez jamais fait. Eh bien, écoutez, moi je vous conseille, un jour faites-le. Parce que c'est quand même important. Ce peuple d'Israël, il a été créé en notre faveur, de nous tous. Et alors, quand dit le peuple élu, vous savez, quand on croit le peuple Israël comme un peuple qui a été choisi parmi d'autres, les gens deviennent jaloux. Parce que les gens disent, mais ce peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Ben non, le peuple d'Israël est de la même pâte humaine que nous tous, mais Dieu en a provoqué l'existence pour amener le rétablissement de la communion. Voilà. Alors, t'en vas pas. Tu vas me tenir le micro. Voilà. Chose très importante ce matin, c'est que Dieu fait avec le peuple d'Israël une alliance. Vous savez ce que c'est une alliance, les enfants? Oui. Viens le dire. Oui, qu'est-ce que c'est?
C'est quand on s'accorde ensemble?
C'est quand on s'accorde ensemble. Merci, c'est ça, oui. Oui, oui. Voilà, c'est quand on décide de marcher ensemble. Alors, Dieu décide avec Israël, voilà, nous allons marcher ensemble et c'est moi qui le décide. Et Dieu fait avec Israël une alliance. Alors l'alliance, on va, tiens-moi le micro, on va la symboliser par ce cordon que je lui passe autour de la taille. Voilà. Et très important cette alliance. Je vais lire dans la parole. Ce que Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 17. C'est Dieu qui parle à Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc cette alliance, c'est une alliance qui est perpétuelle, un autre mot synonyme, éternelle. Alors, quelle heure il est, c'est pas... Voilà. Et quel jour sommes-nous? 22 juin. Je pose une question aujourd'hui, 22 juin, à peu près 11h et quelques. Est-ce que l'alliance que Dieu a faite avec Israël existe toujours? Et comment vous le savez, ça? Comment pouvez-vous affirmer une chose pareille? Parce que la parole dit qu'elle est éternelle. Et ça, c'est des choses vraiment à se faire entrer dans la tête. Bon, donc, alliance éternelle. Alors, il se peut qu'au cours des siècles, voilà, par exemple, je représente un peu l'éternel, Dieu, je fais avec toi, peuple d'Israël, une alliance, là, toi tu me tiens. Il se peut qu'à un certain moment, tu ne sois pas tout à fait fidèle, parce qu'il y a de l'idolâtrie, parce qu'il y a trop de ritualisme pour ceci, pour cela, et que tu lâches prise d'un doigt, de deux doigts, vous voyez. Et tu peux lâcher prise, toi, parce que tu es de la patte humaine, mais moi, je suis Dieu, je suis un Dieu de fidélité, je suis un Dieu qui tient parole. Et là, moi, je continue de te tenir. Voilà. Alors, maintenant, Dieu, avec Abraham et leurs descendants, fait des promesses. Alors, ces promesses, on va les symboliser comme ça, par cette écharpe. Tiens, il commence à avoir une allure de coin à gadol, là. Hein. Voilà. Alors, Dieu fait des promesses. Écoutez bien ces promesses. Je vais en souligner trois points. Dieu promet au peuple d'Israël qu'il va perdurer de génération en génération. Les enfants engendreront plus tard des enfants qui auront des enfants. Et Dieu promet une pérennité. La pérennité, ça veut dire que ça durera toujours. Jérémie chapitre 31, verset 31. Tant que dans le ciel durera la ronde du soleil, de la lune et des étoiles, le peuple d'Israël continuera d'exister. Alors je pose une question, parce que j'ai déjà vu ça. Il a fallu qu'un jour j'établisse la relation entre les Juifs dont on nous parle dans la Bible, ça vous êtes d'accord, les enfants d'Israël, Moïse, vous êtes d'accord, et le peuple juif qui existe aujourd'hui. J'ai déjà vu des personnes qui avaient un peu des lacunes au point de vue culturel, qui aimaient le Seigneur, mais culturellement, n'avaient pas vu la relation entre les Hébreux du temps de Moïse et puis du temps de Jésus, et les Juifs qui vivent aujourd'hui. Le peuple juif continue d'exister. Alors, j'ouvre une parenthèse, ma maman était juive, elle appartenait au peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon, et c'est ma situation aussi. Nous continuons d'exister malgré tout et tout et tout. Bon, deuxième promesse, Dieu promet au peuple d'Israël un espace géographique donné. Alors, par rapport à nous, il est à l'est ou à l'ouest? À l'est. Bon, dans vos classes, là, vous avez tous des cartes de géographie, les petits. Il faut regarder où c'est. Le pays d'Israël. C'est que l'État d'Israël, aujourd'hui, recouvre, mais en partie, c'est le pays que Dieu a promis au peuple d'Israël. Est-ce qu'il existe toujours, ce pays? Ben oui, oui. Vous avez lu le journal, vous avez écouté la télé. Qui se rend aujourd'hui sur la terre d'Israël? Ah oui, ça ne se déplace jamais tout seul. Hein. Ça, vous pouvez être tranquille. Voilà. Hein. C'est, voilà. Et, il est aujourd'hui sur la terre d'Israël. Alors, Nicolas Sarkozy, on va dire de façon plus noble, le chef du gouvernement français, le président de la République française. Et aujourd'hui, en visite sur la terre d'Israël. C'est pas rien, quand même. Bon, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que ça serait possible, puisqu'on en est à ce point, de prier pour cette visite? Ah, c'est pour vous montrer. Pourquoi on prie maintenant? On pourrait prier tout à l'heure, mais pourquoi prier maintenant? Pour montrer que les choses sont d'actualité. Alors, je te laisse. Toi, ne pars pas. Hein. Je te laisse le micro 2 secondes.
Alléluia. Alléluia, on veut lever nos mains hein, sur cette nation d'Israël. Alléluia Jésus. Seigneur, en tant qu'Église, en tant que ton Église, nous bénissons cette nation maintenant. Nous rappelons la promesse éternelle de fidélité de Dieu dans ses choix. Et Seigneur, nous appelons la bénédiction maintenant dans cet entretien, dans cette relation entre le gouvernement français et Israël. Nous disons shalom. Nous disons vraiment que tes voix soient frayées, Seigneur, au nom de Jésus. Et que nous puissions être une nation qui bénisse Israël. Au nom de Jésus, Père. Amen.
Nous te prions aussi, Seigneur, pour la protection de tous ces temps qui se passent aussi là-bas. Nous élevons ton sang et nous disons ta bénédiction et ton shalom. Et nous te prions aussi pour la reconstruction des relations entre la France et Israël, ces relations anciennes. Nous disons qu'elles reviennent à la vie, vraiment dans le nom de Jésus.
Amen.
Amen. Voilà. Et puis alors, troisième promesse, Dieu promet à ce peuple d'Israël que s'il est fidèle à l'Alliance, eh bien, ses troupeaux seront féconds, ses récoltes seront abondantes, ses greniers seront remplis. C'est-à-dire, il va avoir de quoi vivre vraiment comme il faut, dignement. Voilà. Ça, alors, ces promesses-là, symbolisées par cette écharpe, on va dire, ce sont des promesses spirituelles quant à leur origine, spirituelles parce que c'est Dieu qui les a faites, hein, c'est pas Moïse qui les a faites, Moïse les a transmises, mais elles sont faites par Dieu, elles sont spirituelles, mais elles sont, on va dire, terrestres, quant aux objets sur lesquels elles portent. Et un peuple engendré de génération en génération, un peuple qui continuera d'exister sur cette planète, et puis un peuple qui aura de quoi labourer et cultiver son sol. Des promesses tout à fait à caractère terrestre. Bon, et bien voilà, ce peuple d'Israël va commencer de marcher sur la route de l'histoire. Vous connaissez l'histoire d'Israël dans l'ordre chronologique. On va faire une révision générale là. Non, bon, je ne suis pas... Vous connaissez l'histoire d'Israël, l'Égypte, Moïse, la sortie d'Égypte, l'entrée en terre promise, le temps des juges, puis Samuel, Saül, David, Salomon, le pays qui s'écarte en deux secteurs, etc., etc. C'est l'histoire d'Israël. Voilà. Alors, dans cette histoire d'Israël, évidemment, à certains moments, il y a une partie du peuple qui ne répond pas tout à fait à la vocation. Mais le peuple d'Israël reste toujours, au fil des siècles, porteur de ce projet de rédemption de Dieu. Et quand l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, est-ce que tu sais, toi, dans quel chapitre de la lettre aux Romains, Paul parle du peuple d'Israël? Tu ne le sais pas. Alors toi, tu vas vous allez vous en souvenir, c'est la lettre aux Romains, chapitre 11.
La lettre aux Romains, chapitre 11.
Voilà, mais tu as le temps de bien la lire. Voilà. Dans la lettre aux Romains, chapitre 11, quand Paul parle de la vocation d'Israël, il a une image champêtre. Quelle est cette image champêtre? Alors, on va la voir paraître sur l'écran. Ah, ça y est. Il compare Israël à un olivier cultivé. L'olivier cultivé, ça veut dire qu'il a un horticulteur. L'horticulteur, c'est Dieu. Le peuple d'Israël, c'est le peuple spécialement créé par Dieu. Voilà. Alors, ce peuple d'Israël marche sur la route de l'histoire. Et Abraham, c'était à peu près, combien, 4000 ans, à peu près, par rapport à nous. Et voilà qu'il y a 2000 ans, se lève en Israël ce personnage hors du commun appelé Villefort.
Jésus.
Jésus. Alors, je te pose une voilà. Imagine, tu es dans les rues de Nazareth, toi tu es un jeune, tu es le fils du charpentier à peu près 13-14 ans, il marche là et toi tu veux le rejoindre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cries pour le faire retourner? Tu l'appelles, qu'est-ce que tu cries? Crie-le.
Viens.
Mais viens qui?
Viens Jésus.
Jésus. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait, lui?
Il se retourne.
Et non, il ne se retourne pas. Parce qu'il n'a jamais entendu dans ses oreilles le mot Jésus. Et non. Il a entendu toujours dans ses oreilles le mot Yeshua. Alors, je ne dis pas ça pour faire le snob. Eh oui. Je ne dis pas ça pour faire le snob hébraïsant. Je sais un peu d'hébreu, deux ou trois trucs, je ne veux pas épater à la galerie pour ça. Mais simplement, rappeler l'origine de ce mot hébreu, Yeshua, ça veut dire, un mot qui veut dire redressement, rétablissement, il y a cette notion de guérison, de libération. Alors, on va continuer ce matin de dire Jésus. Jésus, c'est une transcription phonétique de Yeshua. Yeshua, Jésus, ça donnait Jésus. Alors on va dire Jésus, on va dire Yeshua. Mais vous voyez, c'est pour replacer les choses dans leur contexte. Jésus appartient bien au peuple d'Israël. Et alors je pose la question, est-ce que Jésus était juif? Ben voilà, je vous ai posé encore un piège. Jésus, non mais Jésus ou Yeshua? Vous m'avez dit où? Jésus ou Yeshua était-il juif? Vous m'avez dit oui. Vous aurez bien répondu, attends, ta question est mal posée. Il est toujours juif. Sur la croix, Jésus, roi des juifs, et celui qui est ressuscité, ce n'est pas un autre. Voilà, ce n'est pas un autre. Il est toujours juif, là-haut, dans la gloire du Père, évidemment. Alors voilà. Alors Jésus, maintenant, va intervenir dans la vie d'Israël et va apporter une nouveauté. Mais quand je dis nouveauté, il faut que je nuance. Vous allez voir ce qu'il y a de nouveau avec Jésus. Qui pourrait me dire ce que Jésus a apporté de nouveau? Qu'est-ce que Jésus a apporté de nouveau? Oui, oui, très bien. Alors, on va voir. Tu vas attends, mais là, j'ai besoin de quelqu'un. Oui, où est le garçon qui venait me dire Ève, là, tout à l'heure? Il est reparti? Oui, il est Clément. Où il est? Ben ça fait rien, on va prendre un gars. Est-ce que quelqu'un veut venir me tenir le micro là? Allez, tu as levé la main en premier, tu viens. Voilà, ça m'aidera. Hein? Voilà. Voilà. Alors, essayons de voir cette alliance. L'alliance qui était, comme on a dit, éternelle. Il y a un point important que j'avais oublié, c'est que cette alliance, elle est comme un contrat signé par devant mon père, et jusqu'à présent, elle s'était trouvée signée par le sang d'animaux offert en sacrifice. Vous vous rappelez quand Moïse, l'ordre de Dieu, avait pris le sang d'animaux offerts et en avait aspergé le peuple. Voici le sang de l'alliance éternelle. Elle était signée par le sang d'animaux offerts en sacrifice. Arrive Jésus, sa personne, son œuvre, sa mort sur la croix, sa résurrection. Et là, nouveauté, que se passe-t-il? L'alliance n'est plus signée par le sang d'animaux offerts en sacrifice. Elle est signée maintenant par le sang de Jésus à la croix. Et ça, c'est une signature qui est ferme et qui est définitive. Très bien. Très bien de dire amen. Et attention, et l'alliance, non? Et l'alliance de Dieu avec Israël, elle demeure. Israël est toujours en alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette alliance est éternelle. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que cette alliance, elle est basée sur la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. C'est ça qui fait une alliance nouvelle. Mais attention, mes amis, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, il faut comprendre que cette alliance, c'est toujours la même alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Alors, dis-moi le micro parce que je vais le lire. Hébreux, chapitre 8, verset 8. Bon, j'arrive pas à le trouver, mais je vais faire semblant de le lire, je le sais par cœur. Non, mais moi je le dis tout haut, mais je suis pas attendez, je suis pas le premier prédicateur à vous faire le coup. Hein. Bon, mais enfin, vous vérifierez si c'est. Bon. Hébreux chapitre 8, verset 8, qui renvoie à Jérémie au chapitre 31. Dieu dit : je conclurai une alliance nouvelle. Et là, avec qui ? Eh bien, écoutez bien. Je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. La maison d'Israël et la maison de Juda, c'est l'ensemble du peuple juif. Et, alors là, je vais dire quelque chose. Je ne suis pas un garçon qui aime, je ne suis pas un provocateur. Mais pendant quelques secondes, je vais être volontairement provocateur. Vis-à-vis de mes frères et sœurs qui n'ont aucune racine familiale juive. Je crois que c'est une très très grande majorité parmi nous. Je m'adresse donc aux non-juifs parmi nous. Je leur dis ceci, mais après, ne vous effrayez pas, je nuancerai le propos, hein. Mais ça va être choquant, ça va vous choquer. Avec vous, non-juifs, Dieu, hormis une alliance qu'il avait faite au temps de Noé, avec vous, non-juifs, Dieu n'a pas conclu d'alliance. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, je le répète, mais ne vous effrayez pas. Avec vous, non-juifs, Dieu n'a pas conclu d'alliance. L'alliance, elle est conclue avec Israël. Alliance, c'était tout à l'heure ancienne formule, qui maintenant n'existe plus. D'ailleurs, le temple de Jérusalem est détruit, et il n'y a plus le système sacrificiel, et demeure pour l'éternité l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Alliance, nouvelle formule, mais toujours même alliance de Dieu avec Israël. Et quelqu'un, c'est toi qui m'as dit, non, c'est quelqu'un là-bas qui m'a dit, une demoiselle, Jésus apporte des promesses célestes, vous avez dit. Célestes parce qu'elles touchent à l'éternité. Et en effet, on va les symboliser, ces promesses, par cet oiseau. Qu'est-ce qu'amène Jésus? Eh bien, la vocation d'Israël se focalise, elle se précise. Israël est appelé à être le peuple témoin de Dieu à la surface de la terre, et maintenant c'est plus précis, à être témoin de la venue dans le monde de Jésus, parole de Dieu devenue chair. Et maintenant, c'est à saisir par la foi. La notion d'un peuple basée sur la foi en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Et puis j'avais parlé tout à l'heure d'un espace géographique donné. Il existe toujours, puisqu'on a prié. Et à ça vient faire écho maintenant une situation d'ordre spirituel avec Jésus. Le fait de demeurer en Christ. D'être en Christ. Et Jésus qui dit « demeurez en moi ». Et puis tout à l'heure, j'évoquais le fait de vivre dignement avec des greniers bien remplis, etc., des récoltes abondantes. Et maintenant, à cela fait écho toute l'action du Saint-Esprit, le pardon de nos péchés qui nous est appliqué, le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes adoptés, la justification, la sanctification, et puis aussi le fruit de l'Esprit, la douceur, la patience, etc., les dons de l'Esprit, tout ça. Et voilà, Israël, enrichi par ses promesses. Tiens-le de cette main. Alors, qu'est-ce qui se passe là, mes amis? Tu peux t'asseoir, je te rappellerai. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que ce peuple d'Israël entend le message de Jésus. Que se passe-t-il? Il y a une partie du peuple qui adhère au message de Jésus, qui est pleinement dans la vocation, qui reste dans la vocation d'Israël, mais il y a une partie du peuple qui n'adhère pas au message de Jésus, de Yeshua. Alors on va la symboliser par ce bras. Voilà, la partie du peuple. J'ai tout prévu. On va... Oui. Voilà, je vais scier à ce niveau. Ferme les yeux. Pourquoi je fais ce geste? Parce que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, Romains 11, dit que la partie d'Israël qui croit en Yeshua, c'est vraiment le reste de l'olivier cultivé. Et puis, la partie qui ne croit pas en Yeshua, que je vais être obligé de scier, est comme une branche qui est coupée et qui est mise de côté. Est-ce qu'on peut envoyer l'image de ça? Ah ben la voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà la situation en Israël. Voilà. Alors, cette main, tu la mets royalement derrière toi, elle disparaît, elle est coupée. Bon. Alors, voyons maintenant, est-ce qu'on peut voir le rond, le simple rond, là? Non, pas si vite, pas le rond. Que le rond. Voilà. Voilà la situation en Israël. Ce rond symbolise le peuple d'Israël. La partie bleue, c'est la branche qui a été coupée. Les Juifs réfractaires à Jésus. et un grand nombre de pharisiens, etc. La partie verte représente l'olivier cultivé d'Israël, ce qu'il en reste, c'est-à-dire les Juifs croyant en Jésus. Alors, ceux qui étaient là l'autre jour, l'autre fois que je suis venu, se taisent, mais je pose la question, comment, dans nos Bibles, je dis bien dans nos Bibles, est désigné cet ensemble qu'on voit ici en vert des Juifs croyant en Jésus? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? N'ayez pas peur, il me semblait entendre là, quelque chose, quelqu'un murmurait un truc là. Non? Vous l'avez, qui l'a dit? C'est très bien. Les Juifs messianiques, c'est bien, mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Elle est bien, mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Et pourtant, vous ne le savez pas, c'est un mot que vous avez utilisé des centaines de fois dans votre vie. C'est dans les traductions, je dis bien, je précise, parce que maintenant je fais attention aux mots, je dis bien dans nos traductions de la Bible, cette partie-là, elle est appelée, on voit là, le suivant, l'Église. Alors, oui, je vois des visages étonnés là. Il est dit, les premiers disciples de Jésus, ils persévéraient dans ceci, cela, et chaque jour le Seigneur ajoutait à quoi? À l'Église, ceux qui étaient sauvés. C'est dommage que ces jeunes s'en aillent, mais alors, c'est très bien, mais je pense qu'ils ont des parents, que les parents enregistrent bien, et puis après, puissent les enseigner. Bon, alors, l'Église, ça c'est le début de l'Église. Bon, je marque une toute petite pause pour essayer de vous réveiller. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons dit tout au début, que Dieu était un Dieu de fidélité? Oh là là.
Fidélité et d'amour.
De fidélité et d'amour. De relation, de communion. Or, la communion, Dieu veut rétablir aussi une communion à l'horizontale. Voilà une communauté humaine composée d'un seul élément. Est-ce que un, ça suffit pour faire une communion? Il faut être plusieurs. Alors Dieu veut que sa communauté humaine par excellence prenne la forme d'une fratrie. Alors on va imaginer une fratrie. D'un couple, il n'y a pas d'enfant, naît un enfant. Qu'est-ce qu'il est celui-là? Il est fils unique. Voilà, pour l'instant, tu as un statut de fils unique. C'est la fratrie en devenir. Et alors comment la fratrie va-t-elle maintenant se constituer, c'est que l'évangile maintenant est annoncé en direction des non-juifs. Voilà, en direction des non-juifs. Alors il continue d'être annoncé aux juifs, mais le premier non-juif qui a reçu l'évangile, c'était qui? Ah non, Paul était juif, mais alors jusqu'au bout des ongles, Corneille. Corneille, semble-t-il, c'était Corneille. Alors, Paul, quand il s'adresse aux non-juifs, et je pense qu'ici, dans l'auditoire, nous avons une immense majorité de non-juifs. Paul leur dit, rappelez-vous ce que vous étiez avant. Vous étiez, c'est dans Éphésiens chapitre 2, vous étiez sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, sans Dieu, sans Christ dans le monde, vous n'étiez pas concitoyens des saints, c'est-à-dire du peuple que Dieu a constitué, vous étiez totalement en dehors du coup, vous étiez à l'extérieur. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, à cause du grand amour dont il a aimé tout homme, envoie le message de l'évangile du salut en Jésus en direction des non-juifs, et là, que se passe-t-il? Alors, ces non-juifs, on va les symboliser par l'arbre. Non, pas celui-là, l'olivier sauvage. Voilà. Non. C'est pas grave. Voilà. Voilà l'humanité sans les juifs. Paul la compare à un olivier sauvage, sans Dieu. Et voilà que l'évangile est entendu là. Une partie des non-juifs adhère au message de Jésus, c'est, je crois, le cas de vous tous. Et à ce moment-là, c'est comme si Dieu coupait une branche de cet olivier sauvage. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous la voyez là-bas en jaune? Il vient la greffer sur l'olivier cultivé d'Israël. Et ça, on va le symboliser. Viens me tenir le micro, s'il te plaît. Alors, on va changer un peu. Allez, viens-toi. Alors, il me faut quelqu'un qui va représenter l'humanité d'objet, ce que la Bible appelle les gentils. Ça va, mais je vais essayer de parler fort. Est-ce que vous voyez cette alliance que Dieu a faite avec Israël? Ah oui. Eh bien, Dieu est entré, Dieu l'ouvre. D'accord? Il ouvre l'alliance. Et il dit aux non-juifs, dans cette alliance que j'ai faite avec le peuple hébreu, avec le peuple d'Israël, toi, non-juif, je t'accueille à bras ouverts. Quels bras ouverts? Les bras ouverts de Jésus sur la croix. D'accord? Et voilà que maintenant, par Jésus, par ta foi en Jésus, tu entres, toi le non-juif, toi qui viens de l'extérieur, qui étais étranger à la maison de Dieu, eh bien tu rentres dans la maison de Dieu. Tu rentres dans cette alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Et là maintenant, Paul dit, tu t'y attendais à ça?
Non.
Non, toi le non-juif, tu ne t'y attendais pas. Tu n'attendais pas un jour être admis dans cette alliance avec Dieu. Ça c'est nouveau. Quand on dit la nouvelle alliance, pour quelle est nouvelle l'alliance? Elle est nouvelle pour les juifs. C'est l'alliance, on va dire, nouvelle formule. Ce qui est nouveau pour le non-juif, ce n'est pas l'alliance, c'est de rentrer dans l'alliance de Dieu avec Israël. Est-ce qu'il y a ici des jeunes qui sont au CM2? Du CM2. Tu es au CM2? Bon. Hein? Tu vas rentrer en 6e. Bon. Qu'est-ce que c'est qui est nouveau pour lui? Bon, et supposons que le collège Daniel, pendant les vacances, un grand coup de peinture, en rénovation, une déplacement des cloisons, etc., hyper fonctionnel et tout. Bon, on va dire, c'est un nouveau collège. Ben, non, il ne sera pas nouveau. Il sera nouvellement relooké, mais bon. Et toi, ce qui est nouveau, c'est pas le collège qui sera nouveau pour toi. Quand tu vas aller en 6e l'an prochain, c'est le fait d'aller au collège. C'est ça qui va être nouveau. Et pour le non-juif, ce qui est nouveau, ce n'est pas l'alliance, il n'en avait pas d'alliance. On ne peut pas parler de nouvelle alliance, il était sans alliance. Ce qui est nouveau, c'est le fait de rentrer dans l'alliance de Dieu avec Israël. Voilà. Et là, Paul dit, les deux sont co-héritiers. Co-héritiers des promesses, une à chacun. Okay. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'ils ont tous les deux le même héritage spirituel, le même amour du Père, le même sang rédempteur, la même assistance de l'Esprit-Saint. Et c'est là que Paul dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme. Il bénéficie des mêmes promesses. Mais est-ce que ça veut dire que les hommes cessent d'être des hommes et que les femmes cessent d'être des femmes? Ben, moi, attendez, moi, je regarde, je vois des femmes et je vois des hommes. Or, la parole nous dit, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, si je le peins bêtement au pied de la lettre, comme c'est souvent pris, en Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Pour parenthèse, les grecs, on les garde. C'est les juifs qu'on fait partir. Bon. Eh bien, le juif reste juif et le grec reste grec. Alors, bon, je vais essayer un peu d'accélérer. Est-ce que ce que j'ai apporté jusque-là, est-ce que ça vous fait drôle? Est-ce que j'ai apporté des notions un peu incertaines? Ah, vous n'allez pas me dire. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé au tout début, qu'est-ce que c'est que la nouvelle alliance? Qu'est-ce que beaucoup ont répondu dans leur tête? Oh, je le sais. Beaucoup ont dit, c'est l'alliance en Jésus de Dieu avec les non-juifs. Parce que l'ancienne alliance était l'alliance de Dieu avec les juifs. La nouvelle alliance, c'est une autre alliance de Dieu avec les non-juifs. Et dans votre tête, vous vous êtes dit, la première alliance, elle est avec les juifs, est finie, et maintenant s'ouvre une nouvelle alliance. Ne me dites pas le contraire, je sais que c'est dans la tête de milliers de chrétiens. Alors, je vais vous montrer ce qui se passait dans notre tête. Je ne vais pas vous dire maintenant ce que dit la parole, ce que nous venons de voir, c'est ce que dit la parole, mais maintenant ce que les hommes ont fait dans l'histoire. Tiens-moi toujours le micro, tu seras gentil. À un moment donné de l'histoire, mais ce n'est pas dans la Bible, mais c'est dans l'histoire, c'est des choses qui ont été vécues. À un moment donné dans l'histoire, les non-juifs ont fait un gros péché d'orgueil. Et faisant un péché d'orgueil, voilà ce qu'ils ont fait, je le dis schématiquement, ils ont expulsé de la fratrie le frère juif, croyant en Jésus, parce qu'il y avait beaucoup de juifs croyant en Jésus. Le non-juif a expulsé le juif croyant en Jésus. Alors, vous voyez, l'alliance, elle tombe. Voilà, tiens-moi le micro. Et que s'est-il passé dans la tête du non-juif? Voilà. Dieu aurait fait avec les non-juifs une alliance exprès, une alliance sur mesure, spécialement pour eux, et voilà la nouvelle alliance. La première, elle est tombée, et les promesses. Est-ce que vous voyez ces promesses-là, de Dieu pour Israël? Elles ne comptent plus, puisque le peuple juif ne compte plus. Alors ces promesses ne comptent plus, que la terre d'Israël soit donnée au peuple juif, ça ne compte plus, on le jette. Et les promesses, elles sont pour qui? En Jésus, elles sont pour le peuple de la nouvelle alliance, les non-juifs. Et alors, le peuple juif s'est vu ainsi un peuple que Dieu aurait rejeté. Tu peux t'en aller sur les chemins de l'histoire, va-t'en où tu veux, Dieu ne te connaît plus. Va-t'en, mais va pas trop loin. Et lui, qu'est-ce qu'il était dans la fratrie? Il était quoi? Il était le cadet, il est toujours le cadet, hein, mais il a chopé une mentalité de fils unique, mais il y a peut-être des fils uniques ici, hein, mais au mauvais sens du terme. Et il a chopé une mentalité orgueilleuse de fils unique, de fils gâté, et qu'est-ce qu'il se déclare maintenant? L'Église à lui tout seul. Il se déclare le nouvel Israël. Si vous avez une concordance, c'est le dictionnaire des mots bibliques. Nulle part dans la Bible, on ne trouve le terme nouvel Israël. Il y a l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est la rencontre des deux. Et voilà. Alors, je ne sais pas, mes amis, si c'était le schéma que vous aviez dans votre tête. Quand vous dites la nouvelle alliance en Jésus, le peuple d'Israël, il y a fort à à parier que c'était le schéma, celui-là, que vous aviez dans votre tête. Pourquoi ? Parce que depuis des siècles, on nous a imposé ce schéma. Ce n'est pas ici le responsable de l'église de Josué, hein, mais c'est ce schéma nous a été imposé. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de revoir nos concepts. Vous savez pourquoi ? Parce que le Seigneur veut préparer son église. Et le Seigneur veut reconstituer la fratrie. Pour l'instant, le frère, où il est passé, le frère aîné, il est parti sans laisser d'adresse, on ne sait plus où il est, on ne sait plus trop où il est. Mais le Seigneur, dans l'état actuel, est en train de faire revenir la réalité des Juifs croyant en Jésus. Et le Seigneur veut reconstituer sa fratrie. Alors, ça veut dire qu'on va avoir des bouleversements dans nos églises. Quand je dis nos églises, je ne vise pas ici. Hein. Ici, si on est bien préparé, alléluia, ça sera bien. Mais je peux vous dire que dans beaucoup d'églises, dans les temps à venir, il y aura des tiraillements. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le frère cadet, le frère aîné, retrouve sa place dans la fratrie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui provoque des divisions. Dieu suscite des distinctions entre le juif et le non-juif, parce que Dieu aime les différences. Mais la distinction ne veut pas dire la séparation. Dieu veut une église qui soit une église de communion. Et communion dans l'alliance éternelle de Dieu avec le peuple d'Israël. Je vous pose une question, mais je ne vous demande pas d'y répondre, c'est dans votre cœur. Personnellement, est-ce que vous aviez la notion que lorsque vous êtes converti à Jésus, vous avez fait une véritable conversion, cette conversion à Jésus vous faisait entrer dans une maison qui est très stable, qui est l'alliance éternelle de Dieu avec le peuple d'Israël, le peuple hébreu, le peuple issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que lorsque vous êtes converti, vous avez compris ça ? Peut-être pas, mais ça n'enlève rien à votre salut en Jésus-Christ. Hein ? Là, voilà. Mais simplement aujourd'hui, il est bon de prendre les bons repères. Alors que vous ne l'ayez pas compris, ben oui, c'est pas un péché. Vous n'avez pas compris. Mais maintenant, aujourd'hui, il est bon de centrer notre intelligence, notre réflexion, notre cœur et j'allais dire aussi nos tripes sur ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous faire prendre conscience que nous sommes tous établis dans cette alliance éternelle de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est un lieu sûr. Le reste, mais ça, oulala, un gros oubli. On n'est plus cette nouvelle alliance. Est-ce que vous sentiez que ça avait un côté un peu New Age, ça ? Et moi, je peux vous dire que l'Église, telle qu'elle conçoit, l'Église indépendante, je ne parle pas des structures humaines, indépendante par rapport aux racines hébraïques, c'est une Église qui sent un peu le New Age. Et maintenant, le Seigneur veut rétablir cela. Merci. Alors, bon, on va dire les promesses, est-ce qu'elles sont aussi pour lui ? Dans un certain sens, oui, mais on ne va pas développer ça, c'est trop long, c'est trop tard. On les développera peut-être une prochaine fois. Voilà. Amen. On verra ça la prochaine fois. Il y a de l'avenir pour cette branche coupée. Hein. Il y a de l'avenir. Mais avant de vous occuper de l'avenir de la branche coupée, c'est-à-dire des Juifs qui ne sont pas, pour l'instant, aujourd'hui, croyants en Jésus, j'allais dire, frères et sœurs, occupez-vous d'abord de vous, de bien vous positionner spirituellement. Après, le reste viendra tout seul. mais bien vous positionner. Et vous n'avez rien à y perdre. On ne vous demande pas de judaïser, on ne vous demande pas de porter une kippa, c'est pas ça qu'on vous demande. Le juif reste juif, le non-juif reste non-juif. Si parmi nous, il y en a certains qui ont des origines familiales juives, alléluia, très bien. Si beaucoup d'autres ne sont pas nés juifs, alléluia, Dieu sait ce qu'il fait. L'important, ce n'est pas que le juif devienne non-juif ou que le non-juif imite le juif, c'est que chacun avec le Seigneur soit bien dans sa peau. Mais si vous voulez être bien dans votre peau, il faut être bien positionné dans cette alliance-là. Bon, Seigneur, moi j'ai peut-être été un peu long. Toi, tu as toute l'éternité pour nous faire comprendre ces choses-là. Mais Seigneur, moi, j'ai exposé avec tout mon cœur, avec toute la conviction que tu me donnes. Mais maintenant, Seigneur, je te demande de faire ton travail dans la réflexion intellectuelle, autant que de travailler au niveau des émotions, des sentiments, au niveau des entrailles, que tout cela descende, que tout cela prenne corps. Parce que Seigneur, tu as pour ce lieu, pour cette église, aussi pour l'établissement scolaire Daniel, tu as des projets très grands, Seigneur, et des projets, non Seigneur, je ne veux pas jouer au prophète, les projets sont très 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 grands, nous le savons, nous le pressentons et nous allons le voir s'accomplir, non seulement pour cet ensemble ici de frères et sœurs en Christ, mais aussi dans nos vies sur le plan personnel. À toi soit la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.